Les soldats le conduisirent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire du prétoire. Ils appellent toute la cohorte, ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, ils crachaient sur lui, et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui mirent ses vêtements, puis ils le font sortir pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter sa croix à un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Et ils le mènent au lieu dit Golgotha, ce qui signifie du crâne. Ils voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et les passants l'insultaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix ». De même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même ». Le Messie, le roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le Petit et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Père, en entendant ces mots, ces lectures, puissions-nous puiser dans ces lectures la force de vivre, y trouver du sens et de la lumière, malgré la peine et le désespoir. Amen. Dans le christianisme classique, on a l'habitude de dire que tout se joue au matin de Pâques. Mais je pense que tout se joue le vendredi soir. Les textes que nous avons lus, tous ces textes relatifs à la passion, à la mort de Jésus, que ce soit ceux de Marc, entendus ici ce soir, ceux de Matthieu, de Luc ou de Jean, sont des textes qui sont sans doute fondés sur une partie historique et réelle, mais la plupart de ces textes sont des composés théologiques qui nous disent une vérité importante, fondamentale. Ce sont des composés théologiques d'une intensité extraordinaire et formidable. La passion. La passion est lourde, dense, parce qu'elle contient et porte en elle toutes les souffrances humaines. Si vous réentendez ces textes et si vous les relisez tranquillement ce soir, peut-être, je ne sais pas, ou un autre jour, peu importe, si vous arrêtez à chaque passage, vous verrez qu'on fait le tour de tout ce qu'un être humain peut subir lorsqu'il est dans le malheur, et quel que soit ce malheur. Ce soit des incompréhensions, des mensonges, faux témoignages, reniements, trahisons, supplices, moqueries, et puis la souffrance biologique, évidemment, et la mort au bout de la route, et bien d'autres choses encore qu'on pourrait déceler au fil des lignes. Il y a là une mort que Jésus porte en lui, qui est une mort totale. Et chez Marc, elle est particulièrement dramatique. Elle est dramatique et elle finit dans l'abandon le plus total, et elle finit par un cri dans la nuit. Je ne dis pas que les autres évangiles soient plus positifs, le mot ne conviendrait pas, évidemment, mais dans l'une, il y a le pardon quand même qui est dit. Il y a un discours avec les deux larrons qui sont crucifiés en même temps que Jésus, tandis que chez Marc, il n'y a que des injures. Il y a aussi chez Matthieu la résurrection des morts qui est dite. Et puis le tout est accompli, de Jean qui a l'air de nous dire qu'une sorte de programme ou de projet est en train de s'achever, d'être mené à terme finalement. Mais dans Marc, il n'y a rien de tout cela. Jésus est au plus bas de la détresse humaine qu'il porte dans sa souffrance et dans son désarroi absolument total, comme s'il portait la souffrance des hommes et du monde, et comme si chacun, chacune d'entre nous, chaque être souffrant pouvait se reconnaître dans la passion. Quand nous avons lu les évangiles comme cela, avec les rencontres que Jésus peut vivre avec l'une, avec l'un, une guérison, un partage, un discours, une dispute théologique avec les pharisiens ou que sais-je encore, on imagine mal que tout cela va mal finir. Et on a l'impression, lorsqu'on arrive à la mort de Jésus, qu'il y a une victoire du mal. Est-ce que Caïn aurait-il eu le dernier mot? Est-ce qu'il y a là le point final dans la lutte cosmique entre le bien et le mal? Le juste meurt. Celui qui porte en lui le bien, la volonté de faire vivre les hommes dans leur plénitude, qui les appelle par leur nom, qui leur pose la question « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Quel est ton désir, ton besoin, quel est ton manque? Celui qui tend la main à ceux que tout le monde ignore, le juste meurt. Quel intérêt y a-t-il à vivre avec cela, finalement? 2-3 siècles avant, l'Ecclésiaste va le dire, tout est vanité, tout est inconsistance, vapeur, buée, parce que, regardez l'injustice du monde que l'Ecclésiaste dénonce là. Alors que le riche prospère et que le malheureux meurt. Il y a Job aussi qui pose la question du mal, qui reste en suspens et sans réponse parce qu'elle nous dépasse infiniment. Le juste meurt, les autres triomphent. C'est vraiment le chaos. C'est vraiment le n'importe quoi. Le néant, la béance. Comme je peux en être témoin parfois quand je vais enterrer des SDF et qu'il n'y a personne le matin au cimetière, pour les laisser mourir tout seuls, comme ils ont vécu. On est dans le chaos, dans n'importe quoi. On est véritablement dans les ténèbres, sinistre, signe de mort. C'est quand même le mot qui est utilisé en grec. Pas la nuit, ce sont les ténèbres, c'est-à-dire la nuit vue de manière pesante et négative. Alors à ce stade de la lecture, on peut se dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose de la bonne nouvelle là-dedans finalement? Quelque chose qui va nous toucher? De telle sorte qu'on puisse dire, bah oui, on peut quand même vivre malgré cela. Bien oui. Oui, car dans sa mort totale, dans cette souffrance portée totale, Jésus se place ici résolument du côté des malheureux. Que vous soyez malade, exclu, que vous sentiez incompris, que vous soyez dépressif, que vous soyez dans le deuil, Jésus est là, de votre côté, incontestablement. Lorsqu'on en a le plus besoin, lorsque nous sommes dans la détresse, nous savons que lui aussi est passé par là. Et que s'il y a quelqu'un avec lequel on peut entrer en dialogue, c'est bien avec lui. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fantastique. Lorsqu'on visite un malade, par exemple, dans un hôpital et dans des unités de soins palliatifs ou dans des services de maladies pas possibles, eh bien, savoir que Jésus a été comme cela, le porteur de la souffrance du monde, je crois que c'est quelque chose qui a du sens, finalement. Oui, il y a la bonne nouvelle dans cette crucifixion. Pour cette deuxième raison, c'est que là se révèle la puissance de Dieu. C'est dans cette mort que Dieu révèle vraiment sa toute-puissance et qu'il la réalise, précisément. Aucune religion, aucun Dieu à ma connaissance, ne dit cela et ne vit cela. Vous pouvez lire la Torah. Dieu, là-dedans, c'est le Dieu d'Israël qui conduit son peuple vers la réalisation d'une promesse. Vous pouvez lire le Coran. Rien de ça, évidemment, dans le Coran, Dieu est plutôt triomphant. Vous pouvez aller chercher du côté du bouddhisme, qui n'a absolument rien à voir avec le christianisme, puisque le monde y est vu de manière négative et qu'il faut s'extraire du monde par la méditation et atteindre cet état de, je dirais, nirvana, comme on dit. Et la compassion n'a rien à voir avec l'agapé. Alors qu'au contraire, le Dieu de Jésus-Christ, au lieu de s'extraire du monde, va plonger précisément dans le monde. Si vous regardez du côté des paganismes, il y aura peut-être un Dieu comme cela qui va s'intéresser au monde et puis qui va descendre vers les plus malheureux, mais pas du tout. Si vous regardez les histoires de Zeus et compagnie, lorsqu'ils descendent vers le monde, c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a une jolie fille qui les attire et qu'ils ont précisément envie de coucher avec. Les histoires de Zeus, il y en a épais dans la mythologie, vous savez, aussi bien que moi, et ainsi de suite. Je ne connais pas de Dieu qui soit assez puissant pour être à la fois le Père créateur du ciel et de la terre, comme nous le confessons de temps en temps, et en même temps, celui qui aura assez de force et de puissance pour descendre au plus bas du plus bas, pour aller toucher le plus méprisé des méprisés et aller le chercher, le sortir du bourbier. C'est ça le christianisme, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on a rajouté au fil des siècles, ce n'est que la dogmatique et la théologie qui embrouillent les cartes, finalement. Mais c'est ça que nous sommes appelés à vivre, finalement. Ce Dieu tout-puissant qui se met, lui, à notre niveau, même si nous sommes au niveau zéro de l'existence. Il y a une troisième annonce de la bonne nouvelle là-dedans. C'est que le voile du temple est déchiré, vous le savez. Le Saint des Saints était fermé parce que nul ne pouvait voir Dieu sans mourir, sauf le grand prêtre au jour du Yom Kippour, du grand pardon, après un rituel de purification assez complexe. Mais là, le voile est déchiré. Eh bien, Dieu est visible, il est accessible. Il est accessible pour tous les rêves. Et celui qui un jour sera persécuté quelque part sur l'île de Patmos, qui a signé l'Apocalypse de Jean, il verra lui aussi le voile du temple déchiré, c'est-à-dire le ciel ouvert, de la même vision, le même sens. Et là, il verra une grande vision de l'histoire et de l'espérance, une très grande révélation. Oui, il y a, au soir du Vendredi Saint, l'essentiel du christianisme qui est dit, bien avant Pâques. Alors c'est vrai que cet essentiel est dit dans la tourmente, dans la peine et dans la souffrance, évidemment, ce qui fait que nous sommes moins joyeux que le jour de Pâques, le jour de la résurrection, ça va de soi, évidemment. Mais ce qu'il est intéressant, c'est que, alors qu'on a l'impression que la mort triomphe, ben c'est pas vrai. Le mal est vaincu, alors qu'il pensait avoir triomphé. La mort, le mal sont vaincus, là, sur la croix, précisément. Et l'évangile de Marc, avec cette souffrance, avec ce, peut-être sa sobriété aussi, qui nous dit tout cela, cet évangile de Marc est véritablement prophétique, c'est une prédication qui est porteuse de la parole de Dieu. La nuit, elle est là, elle couvre l'ensemble de ce drame, et après le cri qui déchire cette nuit, qui marque le point final, finalement, de cette crucifixion, si j'ai pu dire, la mort qui est là présente, eh bien, la nuit qui est là, épaisse et dramatique, les ténèbres, cette nuit est la nuit où tout commence, précisément. Le rideau déchiré, la souffrance du monde partagé sont là posées dans l'éternité. Elles sont là comme des vérités indestructibles. La nuit, après le cri, est une décompression totale. Elle est là, elle nous laisse avec la peine, avec des rêves brisés, avec des ruines, avec de la fatigue aussi. Mais elle est là aussi cette nuit, après la tourmente, avec un repos nécessaire, peut-être de la méditation, telle que l'ont vécu les deux compagnons qui descendaient de Jérusalem à Emmaüs et puis qui, parlant des choses qui venaient de se passer, etc., ont avancé dans la nuit, eux aussi. La nuit, elle est là et elle va déboucher sur l'aube, sur la lumière qui pointe doucement. La nuit, elle est aussi porteuse d'espérance. La nuit, c'est le début du monde, car le début du monde dans la Bible commence par la nuit. C'est le début de la création. Il y eut un soir, une nuit, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. La nuit est nécessaire à la création. La nuit, c'est peut-être le moment de la sagesse, du recul et du silence, qui permet d'être rempli précisément par un acte créateur. Le jour ne peut pas être sans la nuit qui précède. La nuit du vendredi, cette nuit, c'est le début d'un jour nouveau. C'est le début d'une lumière nouvelle, d'un monde nouveau. Vendredi saint, c'est le premier jour d'une nouvelle création. La création du voile déchiré, du cri dans la nuit, d'un amour révélé. Jusque dans la mort. Amen.